19h05, c'est l'heure du jeu, votre rendez-vous qui traite de jeux vidéo, de high-tech, de littérature, de SF. Aujourd'hui, plus particulièrement, peut-être même probablement la dernière émission de l'année, donc profitez-en, régalez-vous, restez avec nous, soyez avec nous. Je vais tout de suite présenter donc l'équipe du jour, allez la Dream Team du jour pour faire plaisir à ceux qui ont l'habitude d'être là. On va commencer d'abord par les anciens, hein, ceux qui ont un peu plus d'habitude. On va présenter Joe, tiens.
Bonjour, je suis Joe.
Voilà, salut Joe, tu nous rappelles qui tu es, rapidement?
Je suis Joe, je suis né près de Lyon il y a quelques années et je suis l'auteur d'un blog BD qui s'appelle www.joelindien.com.
Ah, carrément, le blog s'appelle www.
Bah, je donne directement l'URL, comme ça les gens ils sont...
Voilà, c'est un moyen mnémotechnique.
Voilà, c'est
très
ça.
Bien. On a Marjo qui est avec nous.
Bonjour à tous.
Voilà, Marjo, qui es-tu?
Je suis membre de l'association Game Age qui organise cette émission et je viens de temps en temps quand je suis dispo, voilà.
Et nous avons donc le retour de Davy. Davy, comment ça va?
Bonjour à toutes et tous, ça va bien et toi?
Alors moi ça va très très bien et je vais te laisser te resituer rapidement pour nos amis.
Alors je suis éditeur au Peuple de Mu et je suis également le fondateur du Dépôt Imaginaire qui est un collectif d'éditeurs qui a une librairie dans le 7e à Lyon, rue Garibaldi.
C'est ça, et tu nous as fait un grand honneur puisque tu n'es pas venu seul, tu es venu accompagné de Sylvie. L'aîné, salut.
Bonjour.
Comment ça va?
Oh, ça va super.
Bon, alors, je vais pas te demander de te présenter tout de suite, parce qu'on va le faire dans un second temps, puisque, d'ailleurs, c'est le moment pour moi de présenter le sommaire de cette super émission.
Qu'est-ce qu'on va faire, alors, aujourd'hui?
Alors, dans un premier temps, on va parler avec Sylvie, donc, qui est venue, qui est auteur, je le dis quand même, voilà. Elle va nous parler un peu d'elle, ce qu'elle fait, elle va nous parler de son livre aussi, ce qu'on peut y trouver. Ensuite, en deuxième partie, donc, on parlera des réseaux sociaux. On se posera la question, est-ce que maintenant les réseaux sociaux sont en passe de devenir le deuxième moyen de communication après les moyens physiques? Voilà, on va en débattre dessus. Je suis curieux d'avoir vos avis dessus. Et enfin, on finira avec l'éternel, le sempiternel sac de news, donc qui parle un peu de toutes les actualités diverses de l'univers un petit peu geek. C'est bon pour vous?
Parfait.
Ah, écoutez, très bien. Juste pour moi, le temps de rappeler que, ne me regarde pas comme ça, je suis un professionnel, j'allais le faire. le temps pour moi de vous rappeler donc que l'émission est donc échappotée donc par l'association Game Age. Donc vous pourrez retrouver les podcasts sur le Facebook de Game Age. Je le sais, j'ai pris du retard, mais comme c'est Noël, voilà, je m'engage, oui, je m'engage officiellement à essayer de mettre un maximum de podcasts pour ces fêtes de fin d'année, voilà, comme ça, si on n'est pas là la semaine prochaine ni celle d'après, vous pourrez en profiter, et vous pourrez aussi réagir en direct, donc, sur le Twitter R du jeu, RDUJEU, voilà, pour pouvoir nous poser des questions, etc., etc. Bon, maintenant que j'ai bien parlé, eh ben on va peut-être pouvoir commencer à attaquer avec Sylvie, juste pour moi, le temps de faire la petite intro. Je vais essayer de la faire.
Attention.
En général, je me loupe, hein, donc vous vous moquez pas. Voilà, déjà ça commence mal. C'est bon, là je suis pas mal.
Faut avoir 12 doigts.
Ouais, c'est ça, faut avoir 12 doigts. Je suis prêt.
You win. Perfect.
Voilà, c'est l'intro à la Street Fighter, voilà.
J'ai fait à la bouche la dernière fois.
Oui, vas-y, fais voir.
Non, pas ça, mais j'avais fait autre chose à la bouche. Quand, au lieu d'utiliser la technologie, je me suis servi de ma bouche pour faire un jingle.
Voilà, alors pour savoir, pour resituer, hein, les amis, il y a deux semaines, je n'étais pas là. Et c'est Joe qui a repris l'émission. Donc j'espère que vous pourrez retrouver ce podcast. Je suis curieux de l'entendre. Moi-même, je ne sais pas ce que tu as fait. Bon, c'était
ça, fait plaisir.
Ça se trouve, il a fait une fête dans les studios.
Voilà, et... Ça fait totalement flipper. Donc on verra. Bon, on va commencer donc avec Sylvie.
Alors, oui, je suis prête.
Voilà, t'es prête, parfait. Et juste rapidement, si tu peux te présenter pour nos amis auditeurs, pour savoir qui tu es, ce que tu fais.
Bon, je m'appelle Sylvie Lainée, j'écris de la science-fiction depuis pas mal de temps. J'ai commencé à en lire quand j'étais toute gamine. Et j'adore les nouvelles, du coup j'écris des nouvelles. Et j'avais tout un tas de nouvelles éparpillées un peu partout. Je sais pas si je raconte tout d'un coup, mais...
Oh, si tu veux, vas-y, il n'y a pas de règle. Hein. Si, t'en,
y a,
si tu te sens, vas-y.
Il y a 10 ans, j'ai rencontré un super éditeur, super sympathique, qui est Jérôme Vincent, qui avait créé la maison d'édition ActuSF. Mmh. Il a commencé à publier mes recueils. Il en a publié un, puis deux, puis trois, puis quatre. Et bon, dans l'intervalle, je continue à écrire des nouvelles à droite à gauche. Mmh. Et à participer à ses entours. Et puis, tout dernièrement, il m'a dit, écoute, si tu veux, on fait une intégrale, on reprend les quatre recueils et tout un tas d'autres choses à côté. Tu me fais un gros recueil. Et il vient de le sortir le mois dernier. Il s'appelle Fidèle à ton pas balancé. Et il est magnifique.
Vas-y, David,
il faut
vas-y.
Rappeler, il faut rappeler que Sylvie Lainé, quand même, son dernier recueil qui s'appelle L'Opéra de Chaya a été multiprimé parce que malgré tout, on a, alors je sais que tu n'aimes pas ça, hein, 30 ans de carrière déjà, hein,
ça balance.
Ah, ça, je dis pas, oui.
Voilà, on a 30 ans de carrière avec un recueil donc Fidèle à ton pas balancé, 26 nouvelles, il y a une dizaine de prix littéraires.
Ah, c'est vrai qu'il y a deux grands prix de l'imaginaire, il y a quatre voilà. prix Rony Aîné, il y a un prix Baudemort. Un prix du lundi, un prix Alain Doremieux, ah oui. un prix 7e continent du Canada et encore quelques autres que j'oublie. Donc.
Et oui, Sylvie Lainé, c'est quand même aujourd'hui, alors c'est pas de la flagornerie, hein, loin de là, mais c'est quand même sans doute la meilleure novelliste de France de science-fiction. En tout cas, la
prendre quelques heures.
Oui, mais quand même, aujourd'hui, tu es quand même sur un niveau, en tout cas, aussi bien littéraire que dans les histoires que tu traites, qui ont l'Opéra de Chaya, c'est quand même les trois gros prix français qui l'ont récompensé, le Rony Aîné, le Grand Prix de l'Imaginaire et le Bob Moran, ce qui est quand même pas rien. Il faut
oui, maintenant il faut aussi que je fasse un aveu, c'est que j'écris pas beaucoup, j'ai un vrai métier à côté et puis je suis pas hyper productive. Donc j'écris une ou deux nouvelles par an.
Ouais, une
alors
deux nouvelles
évidemment.
Par an.
Mmh. À force de que les années passent, ça finit par faire des gros bouquins.
et d'ailleurs, le gros bouquin, donc ouais. Fidèle à ton pas balancé, paru chez ActuSF, 26 nouvelles de science-fiction, mais pas que finalement, puisque l'écriture de Sylvie Lainé, si je peux la présenter très rapidement, c'est plutôt une écriture humaine. C'est une écriture qui nous raconte nous finalement tels que nous sommes, avec une science-fiction qui finalement est un prétexte à nous ausculter.
J'aime bien mettre des gens dans des situations un peu déconcertantes ou un peu bizarres et voir comment ils réagissent. J'aime surtout mettre face à face des gens qui pensent pas de la même façon et qui n'ont pas les mêmes échelles de valeurs. Et j'ai des personnages, c'est une remarque qu'on m'a fait souvent, j'ai des personnages qui sont tous animés de bonnes intentions. A priori, j'ai pas de méchants dans mes histoires. Ils ont tous l'impression qu'ils font au mieux, qu'ils font pour le mieux. Et en même temps, à l'arrivée, ils ont quand même beaucoup de mal à se comprendre et à accepter les réactions des autres et leurs jugements. Mais donc la science-fiction, elle me sert à ça. Elle me sert à imaginer des cultures ou des gens qui n'ont pas les mêmes échelles de valeurs et de le faire d'une manière bien plus forte que si je prenais des vraies situations. Il y a des tas de situations dans la vraie vie où on rencontre des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs. Mais on a déjà des idées toutes faites là-dessus qui peuvent être très variées. Mais je voulais obliger le lecteur à avoir un regard neuf. Donc avoir un regard neuf, eh ben, il faut prendre un autre point de départ. Et après, on peut reposer des vieilles questions et elles sont complètement renouvelées.
Il y a pas de méchant, c'est un choix ou est-ce que c'est quelque chose qui vient finalement de tes influences à la fois littéraires mais aussi peut-être sociales.
Moi je crois que ça vient de mon histoire personnelle, mais j'ai beaucoup d'empathie dans la vie courante, ce qui fait que j'ai tendance spontanément quand je suis en face de quelqu'un, j'ai envie de comprendre pourquoi il agit comme ça et comment il raisonne. Et finalement, je me suis aperçue l'impression que j'ai de à peu près tous les gens que j'ai rencontrés, c'est que tout le monde essaie d'être quelqu'un de bien. Mmh. Tout le monde essaie de pouvoir se dire à lui-même qu'il agit bien et qu'il est quelqu'un de bien. Y compris ceux qu'on considère comme méchants quand on les regarde de l'extérieur, ils ont toujours de bonnes raisons. S'ils sont agressifs, c'est finalement parce qu'ils pensent que la meilleure défense, c'est l'attaque et que c'est la seule manière de se préserver ou de préserver leur entourage. Ou, enfin, tout le monde a de bonnes raisons. Donc, personne ne se dit « je suis un méchant ».
Je pense que c'est bien de le préciser, parce que c'est vrai que sur le coup, David, quand tu m'as parlé donc d'un auteur SF, surtout que là en ce moment il y a Star Wars qui est sorti, je me suis dit waouh, comment ça va être et autres. Et puis au final, quand j'ai lu, alors j'ai eu la chance de pouvoir lire un extrait, effectivement, on a pu voir que c'est qu'on parlait de personnages, vraiment de ce qu'ils ressentent, de ce qu'ils vivent, c'est descriptif, c'est quelque chose d'assez accessible d'ailleurs aussi, il faut le dire, parce que si moi j'y suis arrivé, franchement, c'est que tout le monde peut y arriver. Et c'est vachement intéressant cette démarche justement de réflexion et de se dire ben voilà que finalement il y a enfin, chacun ses motivations, au final, et personne part en se disant « ouais, je vais être le méchant, je vais tout casser, etc. » Ça, je trouve ça très intéressant. Mais du coup, alors, comment t'as débuté avec l'ASF ? Est-ce que c'est d'abord en lisant des livres comme ça de SF que t'en es arrivé là ? Ou il y avait autre chose, peut-être ?
Alors, de l'ASF, j'en ai découvert toute gamine, j'en ai lu plein. En plus, j'ai eu de la chance, j'ai commencé par les meilleurs, les plus grands. Et puis, j'ai commencé dans le quartier, pas loin.
Ah oui ?
Puisque j'ai fait connaissance avec un bouquiniste qui est Marcus Leicht, rue d'Algérie, juste à côté. La librairie dans livre.
Oui,
à l'époque, j'essayais de reconstituer ma bibliothèque. J'avais lu plein de bouquins gamines. Je me rappelais plus des noms des auteurs ou des titres des bouquins. Et le jour où je suis tombée sur un type qui connaissait tout, je lui racontais en trois phrases une histoire que j'avais lue gamine et il me sortait le bouquin dans les trois secondes. On est devenus copains. Et il m'a dit, j'ai déjà fait des fanzines. Je savais même pas ce que c'était qu'un fanzine, moi, à l'époque. Et il m'a dit, j'ai déjà fait des revues. Si ça te dit, on en crée une ensemble. On a créé une revue ensemble qui s'appelait Les Lames Vorpales. C'était il y a longtemps, hein, c'était en 84. Et puis du coup, je me suis mis à lui écrire des petites nouvelles pour son fanzine. Et puis il se trouve qu'on est allé un jour interviewer Michel Jury dans le Périgord. Et que j'ai amené mes petites nouvelles à Michel, qui m'a dit « mais elles sont super tes petites nouvelles, envoie-les ». Et il a commencé à me donner des adresses, des contacts. Et Joël Vintrebert a publié ma première nouvelle dans Univers 85 chez J'ai lu.
Wow, d'accord.
Sylvie a quand même eu droit à la publication d'une de ses nouvelles par le journal Le Monde, si ma mémoire
Dans Le Monde dimanche, à l'époque où Le Monde publiait une nouvelle tous les dimanches, oui. Oui.
Quand même une
grâce
belle aventure.
À Michel Jury, d'ailleurs.
Justement, comme tu en parlais, c'est...
Oui. C'est lui qui m'a dit, écoute, ils cherchent des textes, ils viennent de m'en prendre une, tu devrais en écrire une pour eux. Et ça a été ma première expérience difficile, j'en ai eu quelques autres après, parce que la grande difficulté, c'est qu'il fallait tenir une longueur extrêmement précise.
Oui, il y a des contraintes, c'est très contraignant.
Et qu'il fallait faire, je sais plus combien elle faisait, 15 000 signes. Mais c'était 15 000, c'était pas 15 500. Alors, moi, une fois qu'un texte est écrit, j'ai énormément de mal à, en l'occurrence, à y rajouter 200 signes.
Ah oui, juste pour combler, oui.
Une c'est prise de tête.
Et à l'inverse, peut-être raccourcir un texte aussi, ça doit être très dur. Parce que
non, enfin, moi, j'écris hyper concis et synthétique. Épuré, je sais faire.
D'accord.
Bon, c'est vrai qu'une fois que j'ai épuré au maximum, ça devient difficile d'enlever ne serait-ce qu'un mot. Mais ma tendance naturelle, c'est pas d'écrire fouillé. C'est peut-être aussi pour ça que j'aime les nouvelles. Hein,
c'est ce qui explique aussi que c'est une écriture qui est facile à lire, comme le disait Nas. Ça veut dire, ça n'enlève rien à la qualité littéraire, mais elle est accessible en tout cas.
J'écris assez dépouillé, je pense, oui. Simple.
Moi, je me demandais, alors du coup, quand on parle de SF, est-ce que tu as des influences particulières, des choses qui t'inspirent, voilà, en particulier ?
Ah oui, il y en a plein. Parmi les auteurs que j'adore et que je relis toujours, il y a beaucoup de nouvellistes. Et il y a Robert Sheckley, qui est un humoriste qu'on commence à oublier un petit peu, mais qui est extrêmement drôle parce que son principe, finalement, je pense qu'on n'est pas si éloigné dans nos démarches. Son principe, c'est de mettre des gens normaux, plein de bonnes intentions et de bon sens, dans des situations qu'ils ne comprennent pas et qui leur échappent complètement, et où leur gros bon sens, qu'on partage avec eux d'ailleurs, qui est tout naturel, eh ben, foire lamentablement et les met dans des situations inextricables. Et c'est extrêmement drôle. Lisez Robert Sheckley.
Alors, autre question, toujours un peu sur ce format, les nouvelles. Pourquoi celui-ci et peut-être pas un autre? Est-ce qu'il y a un autre format peut-être qui aurait pu t'intéresser ou pas du tout?
Non, j'adore les nouvelles parce que ça permet de plonger directement dans ce qu'on a envie de dire et de parler exactement de ce dont on a envie de parler. Et j'ai vaguement essayé d'écrire des romans, mais il faudrait étoffer, mettre des tas de choses en arrière-plan, rajouter des tas de personnages. Et non, moi j'ai envie de parler de ce que je juge intéressant dans l'histoire, pas faire des phrases et des phrases.
Après l'aventure avec Marcus Leist, donc on rappelle quand même que il y a sa librairie qui est effectivement pas loin des locaux de Canu,
oui.
Et avec qui finalement tu as commencé à écrire. Il y a eu la deuxième aventure que tu as évoquée tout à l'heure, qui était avec ActuSF et Jérôme Vincent. Ouais. Et puis il y a une autre aventure finalement aussi, parce que chacun de tes recueils chez ActuSF a finalement eu comme illustrateur Gilles Francescano. Pourquoi? Alors c'est vrai que c'est difficile à la radio de parler d'une image d'un illustrateur, mais peut-être que Sylvie peut nous en parler, parce qu'il y a une vraie symbiose aussi entre ce que lui fait comme travail illustratif et ce que tu écris.
Alors Gilles, il est complètement extraordinaire. Alors déjà, c'est moi qui ai proposé à ActuSF, Jérôme est pour les mariages entre un auteur et un illustrateur, ce qui est une politique géniale.
D'accord.
Donc quand on a décidé de travailler ensemble, Jérôme m'a dit: avec qui tu aimerais travailler comme illustrateur? Et moi, Gilles, je le connaissais par les illustrations qu'il faisait de Jean-Claude Dugnac, d'Ayerdal, de Roland Wagner. Il travaillait déjà avec un certain nombre d'auteurs et il était fidèle à ces auteurs. Et j'étais un peu intimidée, j'ai dit à Jérôme: tu crois qu'on peut lui demander à Gilles? Je l'avais déjà rencontré, mais... Et il me dit, bah écoute, oui, on va lui demander. Et Gilles d'abord est quelqu'un qui lit vraiment les textes et qui travaille avec des auteurs qu'il aime. Et ensuite, Gilles, c'est pas un illustrateur. C'est-à-dire que il ne prend pas des scènes pour les reproduire. Il travaille sur l'impression que lui a fait un texte et les images mentales qui s'est construit en le lisant, mais pas d'une manière extrêmement figurative et très très proche. Ces images, alors je pense que les images qu'il fait avec moi sont uniques, au sens où mes textes lui parlent d'une manière particulière qui est différente de la manière dont les textes de Dugnac ou d'Ayerdal lui parlent. Et moi, à chaque fois que j'ai vu une de ces illustrations, j'ai toujours eu un choc, parce que c'est un changement de média, c'est un changement de langage, et c'est une recréation. Il recrée dans son univers à lui des choses qui passent chez moi par les mots. Et c'est très émouvant. C'est une expérience extraordinaire à chaque fois.
Alors, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas Gilles Francescano, il faut savoir que c'est effectivement un des grands illustrateurs de l'imaginaire français. Et il est également le directeur artistique et le commissaire des expositions des Utopiales de Nantes, qui est le plus grand festival européen dédié à la science-fiction et aux cultures de l'imaginaire, et aux littératures de l'imaginaire en particulier.
Et il est maintenant directeur d'une école d'art à Carpentras qui s'appelle les A-Digital.
Wow.
Alors là c'est la promo à fond. Il va être content.
Il le mérite.
Et il le mérite.
Mais d'ailleurs, c'est pas particulier justement pour toi de voir quelqu'un illustrer justement tes mots en fait. Comment tu le ressens, comment tu le perçois? Est-ce que des fois ça te déstabilise? T'es toujours en accord ou pas?
Je me pose pas la question dans ces termes-là. C'est une recréation. Moi, je suis pas à l'aise dans les univers graphiques. C'est pas mon média à moi.
D'accord.
Je suis incapable de dessiner. Par contre, ce qui capte est toujours quelque chose de juste. Les couleurs sont pas forcément celles que je m'attendais à voir. L'ambiance, voilà. Mais ça me parle forcément. C'est un autre langage.
Moi, j'ai une question justement, mais plus sur ces interactions entre écrivains et illustrateurs. Est-ce que vous faites un travail de présentation, de correction éventuelle? Est-ce qu'il faut que le visuel ressemble à ce que vous aviez, à ce que tu avais voulu présenter, ou est-ce que dans votre échange, il est finalement libre de...
Ah bah, Gilles est totalement libre. Gilles fait exactement ce qu'il a envie de faire. J'imagine que si un jour il faisait un truc que je trouvais épouvantable, je pourrais lui dire et qu'il travaillerait. Mais ça s'est jamais produit et je peux même pas imaginer que ça se produise.
Ah bah parfait. Comme ça, s'il nous écoute, il est serein.
Donc on peut dire que dans ce cas-là, enfin, les mots que tu as écrits sont ressentis d'une manière assez juste et finalement sa transcription montre aussi que ben c'est...
Il y a des ambiances, il y a des images de choses qui sont passées dans les textes, qui sont recomposées de manière un peu inattendue des fois. Il a fait quelque chose de très beau sur Marouflage, c'est-à-dire que moi j'avais pas explicité le choix de mes titres, c'est peut-être un truc que j'aurais dû faire, mais mes quatre recueils portent des titres qui sont un peu cryptiques. Et Marouflage, c'était pour exprimer l'idée de la toile qui recouvre le mur et on sait pas trop ce qu'il y a derrière la toile. Et quand on l'arrache, on peut avoir des surprises, des bonnes ou des mauvaises surprises. Et j'ai rien expliqué à Gilles. Et dans l'illustration qu'il a faite pour ce recueil, il y a une toile déchirée avec des fragments de choses qui émergent. Et c'était exact. Il a mieux expliqué avec son illustration tout ce que j'aurais pu dire à propos du choix du titre.
Pour revenir sur Fidèle à ton pas balancé, donc qui est ton dernier recueil paru chez ActuSF, ce qui est intéressant également dans ce recueil, c'est que à chaque début finalement de nouvelle, il y a la petite anecdote finalement qui t'a fait écrire cette nouvelle. C'était un choix dans ce recueil. Quel était ton objectif? Est-ce que c'est raconter une anecdote finalement? Est-ce que ça te paraissait vraiment important pour tes lecteurs?
En fait, mes quatre premiers recueils avaient tous une thématique assez cohérente et ils avaient à chaque fois un préfacier, un auteur qui m'a fait le plaisir et l'honneur de présenter le recueil et l'ensemble qu'il composait. Et alors du coup, comme j'ai décidé de recomposer, de restructurer complètement l'organisation des nouvelles dans ce nouveau recueil, je pouvais pas prendre le même principe et demander à quelqu'un d'autre de présenter l'ensemble. Du coup, je me suis dit, faut que je le fasse moi-même. Et comme je ne suis pas Isaac Asimov, ce que je pouvais dire à propos des textes, c'est resituer un peu le contexte, l'époque, ce qui s'est passé autour. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire, c'est des petites explications à chaque fois.
On a une question de Marjo.
Oui, moi j'ai une question. Alors je suis désolée, le sujet est passionnant, j'ai envie de m'y perdre et que ça dure 3 heures. Mais je veux revenir à quelque chose que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit que tu avais un autre métier.
Ah oui, c'est vrai. Je suis prof de fac.
Ah super.
Et prof de fac en quoi?
En sciences de l'information et de la communication. Donc
c'est parfaitement
Je viens de l'informatique et je forme de futurs documentalistes.
D'accord. Et c'est un métier qui t'aide aussi justement à parfois pouvoir t'évader un peu plus loin dans tes écritures
ou... Alors c'est peut-être un métier qui me donne envie de m'évader, oui, de temps en temps.
Parfois on parle d'équilibre, quoi. Enfin, c'est...
Oui. En fait, un de mes grands bonheurs à avoir deux vies parallèles comme ça, c'est que j'y rencontre des gens totalement différents. Et je crois que c'est un des plus grands plaisirs d'être dans les univers de l'imaginaire. C'est tous les gens qu'on y côtoie et qui sont devenus ma famille au fil des années, vraiment une famille de gens avec qui il se passe des choses toujours surprenantes et renouvelées.
D'accord. Des vives, un dernier truc peut-être?
Oh ben juste pour en terminer, parce que l'heure avance et après on va me dire encore que je prends beaucoup de temps sur l'antenne de l'heure de jeu.
Je vais te gronder, non, je vais pas du tout.
Donc juste redire effectivement, si vous avez un cadeau de Noël à faire cette année, n'hésitez surtout pas. Sylvie Lainé, fidèle à ton pas balancé. Voilà, la quatrième de couverture parle de l'une des voix majeures de la science-fiction en France et je ne peux qu'être d'accord avec ce qui est dit dans cette quatrième de couverture.
Merci.
Attention, tu risques d'avoir le prix de l'ère du jeu aussi en plus. Là. Ouais.
Et bon. On va dire aux auditeurs qu'on a on a la chance d'avoir le livre sous les yeux, qu'il est très beau pour ceux qui sont sensibles aussi aux aspects esthétiques. Et Davy nous dira un petit peu tout à l'heure peut-être... quelle est l'actualité
Je peux le dire tout de suite. Juste l'actualité, si vous souhaitez rencontrer Sylvie Lainé, elle sera tout à l'heure à partir de 15h au dépôt imaginaire, donc 320 rue Garibaldi. Vous pourrez la rencontrer, discuter avec elle et éventuellement acquérir fidèle à ton pas balancé.
D'accord. De toute manière, on y reviendra un tout petit peu en fin d'émission sur tout ça. Là, on va se faire une coupure musicale. On va se passer une musique issue du jeu Panzer Dragoon. Voilà, donc un jeu qui était de shoot. On était sur un dragon et on shootait sur un peu tout ce qui bouge. Le morceau s'appelle Flight. On revient dans un instant, juste après ça. Donc, restez avec nous. À tout de suite. retour dans l'air du jeu, votre rendez-vous donc qui parle littérature aujourd'hui. J'espère que vous allez toujours très très bien. Voilà, vous venez d'écouter un morceau issu du jeu Panzer Dragoon. C'était le morceau Flight. Voilà, donc une très belle BO d'ailleurs, je tiens à le dire. Pour ceux qui aiment bien les musiques de jeux vidéo, n'hésitez pas à la télécharger légalement, bien entendu. On est voilà ou pas, mais alors dans ce cas, je suis pas responsable. Voilà, je vais être mêlé à tout ça. Là aujourd'hui, donc je vais refaire un tour de table, mais on a quand même l'honneur d'avoir Sylvie Lenné qui est avec nous, qui nous a donc parlé de son dernier ouvrage. Donc, pardon, ça attend.
Non, c'est pas le dernier. Il y en aura d'autres après.
Le fidèle à ton pas balancé. Voilà. Merci. Oui, j'espère qu'il y en aura d'autres. Avec nous aussi, on a Davy.
Oui, rebonjour.
Voilà, rebonjour, qui est avec nous, donc du dépôt imaginaire.
Oui.
On a donc Jo.
Toujours là, toujours présent.
Je crois que tu as eu un blog, je crois, sur la BD.
Oui, il semble aussi. Un blog BD qui s'appelle www.jolindien.com.
Et on a donc Marjo.
Salut à tous.
Voilà, Marjo de l'association Game Edge, donc l'association qui chapeaute cette, qui réalise cette émission. Voilà, on est ensemble jusqu'à 13h. Donc là, on a parlé donc de Sylvie Lenné, de son ouvrage. Sachez que vous pouvez le retrouver au podcast. Je vais faire un effort pour que ça soit disponible dès lundi. Voilà, je le dis. Voilà, wow, comme ça,
ouais,
vous pourrez le retrouver, vous pourrez écouter tout ce qu'on s'est dit. C'était très intéressant. Et on rappelle d'ailleurs que bah, si vous voulez retrouver Sylvie Lenné, vous pourrez la retrouver donc tout à l'heure au dépôt imaginaire.
Tout à fait, à partir de 15h.
Voilà, donc voilà, un bon plan pour vous, ça peut faire un beau cadeau pour Noël. Là, on va enchaîner donc avec la deuxième partie donc de cette émission. Donc c'est un débat ouvert, on va tous discuter. Je suis curieux d'avoir votre avis sur une chose, un constat que j'ai fait. Et donc je me pose une question, à savoir, est-ce que pour vous maintenant, les réseaux sociaux sont en passe de devenir peut-être le deuxième moyen de communication? Je m'explique un tout petit peu. Bon, on a le principal moyen de communication, bah, c'est le moyen physique. Pour moi, à mon échelle, je pense que c'est celui qui reste quand même encore le plus répandu. Et encore, quoique, je me pose des fois des questions. Et moi, qui ai vécu une autre époque que ceux qui ont moins de 20 ans, eh ben à l'époque, on parlait ou on avait éventuellement le téléphone, voire les lettres. À l'époque, voilà, on envoyait ça à la poste et on recevait une lettre. Oui, je parle d'un
temps. C'est avant les canettes glaciaires, ça.
Avec des timbres.
Il y a des gens qui n'ont pas connu ça, mais oui. Et là, aujourd'hui, je me dis, mais est-ce que tout ça, c'est toujours d'actualité? Est-ce que les gens utilisent peut-être principalement le téléphone déjà? Est-ce que vous décrochez peut-être vous souvent votre téléphone pour aller appeler des gens, ou est-ce que vous commencez à glisser un peu doucement vers cette mode des réseaux sociaux pour textoter, envoyer des messages, des smileys à vos amis? Je vous laisse. J'ai essayé de meubler pour que vous ayez le temps de réfléchir un petit peu quand même à tout ça. Qui c'est qui veut se lancer? Qui c'est qui veut donner sa première impression déjà sur le sujet de ce thème? T'as les deux qui se battent là, Marjo, Jo. Allez, Marjo, toi, t'en
mais
es où?
J'ai tellement de choses à dire, mais j'ai peur de pas être cohérente en fait.
Oh, t'inquiète, vas-y, on est là pour te resituer.
Faut parler personnellement ou ce qu'on voit autour de nous?
Ce que tu veux. Tu es à Radio Canu, tu fais comme tu veux.
Je pense effectivement que il y a de plus en plus de digitalisation des échanges. Donc, comme tu disais, pas de manière physique, c'est-à-dire, enfin, de face à face. Ou je mettrais aussi le téléphone dans le côté physique, c'est-à-dire qu'on parle avec sa voix, on fait un acte physique de contacter quelqu'un. Mmh. Je pense qu'il y a de plus en plus de digitalisation. On envoie des textos, des mails. Mmh. On communique par des écrans interposés, donc on s'engage pas beaucoup physiquement. Après, il me semble que c'est pratique dans certains cas, qu'il y a eu beaucoup de dérives. Enfin, moi-même, il y a des périodes où j'appelais plus les gens. Enfin, j'étais un peu beaucoup dans le côté trop pratico-pratique de la chose.
Ouais, donc c'était peut-être les textos alors toi que tu utilisais.
Ouais, mais par exemple pour prendre contact avec quelqu'un ou demander comment il va, je me pose moi-même des questions, je remarque que j'envoie un texto. Or, j'essaie de faire un peu plus attention à ça, voire même de revenir aussi à du papier. Ça fait un petit moment que je me dis que pour ce Noël, j'ai envie de surprendre des gens avec une carte de Noël.
Voilà. Donc là, à l'inverse, le savent, les gens. Du coup, t'as la surprise.
Donc, je vais vous donner ma liste. Non, mais c'est justement un retour aussi maintenant à se réengager physiquement. Je pense que voilà, on s'oublie un peu quand on fait les choses de manière digitale. Et ben, faut quand même le dire, les gens ont parfois des sursauts de conscience et de réaction. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui reviennent des fois à l'essentiel.
À l'essentiel, très bien. Toi, Jo, alors, t'es, du coup, là, t'es embêté, tu passes après elle, t'aurais dû passer d'abord.
Oui, maintenant, je n'ai plus rien à dire. Je te remercie, Marjo, pour ce moment.
À qui vas-tu envoyer des cartes, Jo?
Voilà, j'ai pas dit que j'allais suivre tes conseils. Moi, j'ai envie de rester dans mon monde digital,
ouais,
de aussi. Rester dans le froid et de le froid de l'humanité. Et continue. Alors, la question que j'avais par rapport à ce que tu disais ou ce que vous dites plutôt, email et texto, vous considérez que c'est du physique ou ça commence déjà à rentrer dans entre guillemets les réseaux sociaux?
C'est compliqué. Alors, je sais pas. Tu vois, les textos, pour moi, c'est quelque chose de particulier. C'est vraiment, ça n'engage que moi. C'est quelque chose de particulier parce que maintenant, on commence à avoir plein de petites applications. Il y a des réseaux sociaux qui font un peu la même chose. Je prends par exemple ta WhatsApp, qui commence à faire la même chose. T'as le Facebook Messenger là, qui commence aussi à reprendre un peu ce concept. Donc, le SMS, je trouve qu'il est un peu hybride. J'ai même peur pour ce mode opératoire. J'ai même peur que dans un avenir plus ou moins proche, que ça disparaisse. Voilà, c'est mon avis. Le mail, il est un peu entre les deux. Ouais. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Non,
non, pas du tout. Je suis encore plus perdu qu'avant.
Mais quelle est ton utilisation, toi? Enfin, tu te sens bien dans quels échanges avec les gens?
Alors moi, j'aime beaucoup texto et email.
Ouais.
Donc voilà, moi après à la base j'étais pas déjà de téléphone de base, même téléphone fixe. Quand c'était portable, je suis à peu près l'un des derniers en France à avoir eu un portable. Et encore c'est parce que j'étais obligé. Et donc moi j'étais l'arrivée du texto et des emails, enfin tout ce qui est email écrit, tout ça j'aime bien. Après ce que j'entendais par réseaux sociaux, est-ce que c'est aussi faciliter les échanges avec les sociétés par exemple? Parce que si c'est entre nous, enfin, si tu utilises Messenger de Facebook ou WhatsApp, ça se rapproche tellement du texto et de l'email. C'est-à-dire que c'est dans un cercle privé, dans un cercle fermé, les gens ne peuvent pas savoir ce que tu as écrit. Moi, à froid, quand on parle de réseaux sociaux, je pense au fait de publier en ligne, on va dire Twitter, c'est, je pense, l'exemple le plus flagrant. C'est qu'on publie en ligne quelque chose que tout le monde peut voir, sur lequel tout le monde peut réagir. Donc, et en général, je dis ça, c'est parfois pour contacter des sociétés ou des personnes hyper connues qu'on ne pourrait pas joindre en temps normal par téléphone. Donc, c'est plutôt comme ça que je voyais les réseaux sociaux et c'est là où je faisais le, c'est pour ça que j'avais un peu de mal à faire la différence entre les textos,
juste,
les emails.
Juste pour resituer, ça dépend en fait du réseau social que tu vas utiliser. C'est vrai qu'il y en a qui sont quand même destinés à un cercle plutôt fermé. À la base, Facebook, normalement, c'est censé être un usage plutôt fermé, puisque t'es censé juste communiquer avec tes amis. Bon, après, il y a eu les dérives, tout ce que vous voulez. Twitter, c'est vrai que lui, il est plus fait pour communiquer à la base au plus grand nombre. On a dit beaucoup de choses. J'aimerais avoir l'avis de Sylvie là, sur tout ça.
Oui, alors, d'abord, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu disais, que on y perd en communication en passant dans le digital, si c'était ton idée. Parce que moi, par exemple, j'ai encouragé ma mère récemment à aller sur Facebook pour qu'on puisse échanger par Messenger, parce que du coup, je lui envoie des tonnes de photos que je pouvais pas lui envoyer. Et envoyer des photos par téléphone, c'est quand même pas hyper pratique.
C'est vrai. Ça reste...
Sinon, sur le côté vraiment réseau social, moi, le truc qui me gêne le plus, qui est en même temps extrêmement confortable, mais inquiétant, c'est le fait que très vite, on ne se retrouve à discuter qu'avec des gens avec qui on a les mêmes points de vue et avec qui on est d'accord sur tout. Et ça donne l'impression que tout le monde pense pareil que vous. Et finalement, chacun est conforté dans les points de vue qu'il a sur ce que pensent les autres. Et j'ai peur qu'on ait de plus en plus de mal à se comprendre les uns les autres.
D'accord.
Ça rejoint tout à fait les thématiques de mon recueil.
Très bien, très bien. Toi, Davy, alors, par rapport à ça, ce mode de communication, réseaux sociaux, qu'est-ce que t'en penses, toi? Alors,
en fait, le sujet est hyper vaste parce que, effectivement, comme disait Marjo, on pourrait en discuter pendant 3 heures. le sujet est hyper vaste parce que tout dépend du réseau social dont on parle. Mmh. Effectivement, comme tu disais, Facebook, à la base, c'est un réseau d'échange plutôt entre amis. On va essayer de faire court et de caricaturer un petit peu, mais c'est plutôt un réseau d'échange entre amis. Twitter, c'est effectivement plutôt un réseau d'échange à plus large échelle qui aujourd'hui sert plutôt les entreprises et les professionnels d'ailleurs, les community managers, etc. En tout cas, tous ceux qui travaillent dans la com sont quand même très bien présents sur, sur Twitter.
Ouais, c'est vrai.
Il y a d'autres réseaux sociaux. Hein. On peut penser par exemple à LinkedIn, qui est un réseau social de professionnels.
C'est pas lui qui est en train de couler en ce moment.
Non, c'est Viadeo qui est en train. Oui, c'est Viadeo qui est en train de couler. LinkedIn se porte plutôt pas mal.
Ouais, c'est une des valeurs qui prend pas mal.
Et voilà. Donc tout dépend de quel réseau social on parle. Ensuite, effectivement, c'est vrai que l'altération que cela pourrait avoir dans nos relations avec l'autre, elle est difficilement, je pense, aujourd'hui mesurable, car on a tous une utilisation différente. Il n'y a pas une seule utilisation des réseaux sociaux. Je crois qu'elle est très personnelle. Mmh. Et c'est un petit peu comme l'éloignement. Enfin, on avait un petit peu ce même rapport où on avait ces mêmes questionnements avec le jeu vidéo. Est-ce que finalement, ça nous éloigne, le jeu vidéo, est-ce que ça nous éloigne de l'autre? Et on s'est rendu compte, par exemple, pour les joueurs de World of Warcraft, donc sur un MMORPG, qu'en fait ça les rapprochait. Ça veut dire que vous aviez des IRL qui étaient organisés avec des gens de toute la France qui se réunissaient à un lieu donné pour finalement se rencontrer en vrai, parce que tout a l'air effectivement virtuel, mais on a quand même le besoin de se voir physiquement, de rencontrer l'autre.
Ouais, mais est-ce que du coup vous pensez que justement là, ces réseaux sociaux, voilà, alors est-ce que ça ne s'apparenterait plus à, entre guillemets, un phénomène de mode, ou c'est quand même quelque chose maintenant qui s'est clairement établi dans nos modes de vie et de communiquer?
C'est clairement, enfin pour moi c'est clairement établi aujourd'hui. Par exemple, tout le monde se sert de Messenger sur Facebook, on utilise le texto, on va voir des vidéos sur YouTube qui est une nouvelle façon de faire de la télévision, par exemple. On va écouter de la radio désormais via son ordinateur ou son téléphone portable. Aujourd'hui, c'est inscrit dans notre système, à mon avis, de communication. Maintenant, c'est comment on l'utilise et qu'est-ce qu'on en fait. Et c'est toujours la question de l'ensemble, finalement, des outils qui sont mis à notre disposition. C'est qu'est-ce qu'on en fait.
Sylvie, là-dessus, toi aussi, tu penses que voilà, c'est quelque chose maintenant qui est établi, les réseaux sociaux, dans notre mode de vie?
Ah oui, mais on n'arrête pas de rajouter des systèmes nouveaux en plus. Aucun d'entre eux ne remplace complètement ceux qui existaient déjà. Mais on s'en passe. Sera jamais des réseaux sociaux, mais on va sûrement inventer encore de nouveaux trucs en plus. Et je suis complètement d'accord avec David, du coup on peut tous faire des choix dans tout ça. On fera chacun les siens en fonction des attentes qu'on a, des périodes de sa vie, si on a un objectif professionnel, un objectif de rencontre, on se servira pas des mêmes choses. Moi aussi j'ai passé pas mal de temps sur des MMORPG et ça s'est fini par des repas d'alliance où on a fait connaissance. Et après n'avoir communiqué que par chat pendant toutes ces des mois et des mois de jeu, on avait fini par tellement bien se connaître qu'on n'a absolument pas été surpris le jour où on s'est tous retrouvés à un repas d'ailleurs. On se connaissait très bien.
Oui, c'est vrai que ça, c'est un phénomène qu'on évoque assez souvent sur les MMO. C'est qu'au final, on passe beaucoup de temps à vivre des aventures épiques, finalement, avec des amis. Et donc, quand on se voit...
Elles sont très vraies. Et elles disent beaucoup, beaucoup de choses sur nous, alors que dans l'univers du jeu.
C'est vrai que les gens ont tendance à pas s'en rendre compte, mais on partage de super bons moments en communauté. Et
qui sont authentiques.
Ouais, c'est ça. Je suis désolé, Marjo, Jo, mais on va devoir se faire la coupure musicale. Et on revient dans un instant. Donc, on est toujours sur la BO de Panzer Dragoon. On va se passer la musique The Fallen Ground avec mon accent anglais parfait, comme d'habitude. Et à tout de suite. De retour dans l'air du jeu, votre rendez-vous donc qui parle de littérature. Aujourd'hui, on a la chance d'être avec Sylvie Lainé aujourd'hui. Merci à toi d'être venue.
C'est un plaisir.
On a Davy qui est avec nous, toujours là.
Oui, toujours
du
là.
Du dépôt imaginaire. On a Marjo.
Yes.
Et Jo, voilà, c'est ça. Je
voilà,
cherchais ton
moi,
nom.
C'est moi, ça fait plaisir.
qui est avec nous. Donc voilà, c'est la troisième et dernière partie de cette émission. On va vous parler donc, alors ce que j'appelle le sac de news, hein, c'est quand on parle un peu de toutes nos petites news et autres. Et Davy, on va commencer par toi, voilà, pour nous parler de tes petites news.
Alors, très rapidement, puisqu'on a la chance d'avoir Sylvie Lainé avec nous aujourd'hui, rappelez que il y a effectivement Fidèle à ton pas balancé, qu'elle sera en dédicace tout à l'heure à 15h au dépôt imaginaire,
voilà.
Mais que Sylvie Lainé a également collaboré avec une autre maison d'édition de la région, dont j'avais déjà parlé ici pour leur 10e anniversaire, des petites bulles d'univers avec Pierre Bordage, et elle a collaboré donc avec Organique Édition pour leur 9e petite bulle d'univers qui s'appelle L'Animal.
Avec Francis Olivier Brunet, qui est un grand peintre dont on m'a proposé de travailler dans son univers visuel. Donc, je suppose que tu as déjà expliqué ce qu'était le principe de la collection.
Oui, je peux le refaire.
Oui, vas-y, s'il te plaît.
Alors, le principe de la connexion Petite Bulle d'Univers, c'est faire appel à un plasticien.
Ouais.
Ce plasticien va réaliser un certain nombre d'œuvres qui vont être mises en scène, prises en photo, et envoyées à un auteur plutôt connu et plutôt reconnu de l'imaginaire. Cet auteur, sur ces images-là, sans avoir d'autres informations, va créer une histoire.
Ah,
cette
cool.
histoire va être ensuite remise en scène, maquettée dans un objet livre véritablement magnifique. Vous aviez pu voir celui sur Pierre Bordage qui était vraiment très très beau. Celui de Sylvie Lainé est magnifique.
Donc celui
également.
De Pierre Bordage, c'était le 10e, c'est le dernier, et le mien c'était l'avant-dernier.
C'était l'avant-dernier, le
9e.
Et donc voilà, et donc c'est un très bel objet, et je sais pas, est-ce que tu peux nous parler de l'animal très rapidement, peut-être une minute, mais nous faire un petit pitch.
Alors l'animal, Francis Olivier Brunet donc dessine des animaux, c'est vous l'auriez deviné. Mais ce qui est intéressant, c'est que ses tableaux sont assez sombres, assez inquiétants, avec des pointes d'humour, et tout est dans le regard des bêtes. C'était vraiment le fil conducteur, un regard très humain. Et qui exprime une quantité d'émotions que j'ai trouvé une manière assez originale, je crois, de faire passer, mais pas par une nouvelle, justement.
D'accord. Et du coup, tout de suite, ça te parle et tu arrives à avoir les mots,
Non, pas tout de suite. Je suis restée pendant une semaine devant ces tableaux. Je vous ai dit que j'étais nulle. J'ai aucune culture artistique, graphique, visuelle. Donc, c'est pas mon média. Donc, je suis restée bouche bée devant, en me disant, mais pourquoi est-ce qu'ils m'ont demandé à moi? Et puis, tout d'un coup, au bout d'une semaine, j'ai une illumination.
Et là, après, on t'a pu arrêter. Ouais, très bien, très bien. En fait, c'est un peu la démarche inverse de ce qu'on peut trouver pratiquement habituellement, en fait.
C'est totalement la démarche inverse, en fait. Et la directrice de collection, donc, chez Organique, s'appelle Licam. Elle est également autrice et a eu le Bob Moran également l'année dernière pour son roman Azulon. C'est vraiment quelqu'un à découvrir également, comme tous les artistes dont on peut parler ici, évidemment.
Ouais, très bien, très bien. Donc, on peut retrouver ça au dépôt imaginaire.
On peut retrouver l'animal au dépôt imaginaire. J'ai peut-être une toute petite info sur le dépôt très
vas-y.
Rapidement.
Vas-y.
Nous organisons le Noël des lecteurs.
Ouais.
C'est un petit concept qui est assez simple. Jusqu'au 6 janvier, vous pouvez venir acheter un livre qui vous parle à vous, qui vous plaît. Mais ce livre, vous ne l'emportez pas, vous le mettez dans la hotte du Père Noël. Et le 7 janvier, pour les rois, nous allons tirer les livres au sort et les remettre à ceux qui en avaient mis à l'intérieur, mais de façon totalement au hasard. Et ça veut dire que vous allez vous retrouver avec un livre que vous n'avez pas choisi, qu'un autre lecteur a choisi finalement pour vous. Et vous allez peut-être découvrir un univers vers lequel vous ne seriez pas allé. Et
c'est une super idée,
ouais. Ouais, toi, ça te plaît. Ça te plaît, ce genre de truc, je suis sûr, Marjo, non?
Bah, moi, j'achèterais le livre de Sylvie Lainé, mais je pense que j'aurais du mal à le laisser dans la hotte. Il va rentrer avec moi à la maison.
Moi, je regrette de ne pas en avoir amené, du coup, il va falloir que je revienne.
Mais oui. Et du coup, donc, ça se passe comment? Alors, à partir de quand on peut y aller, du coup?
À partir de maintenant, voilà,
d'accord.
Sans aucun problème, jusqu'au 6 janvier, voire même le 7, jusqu'au moment où on retirera les livres de la hotte, sans aucun problème.
D'accord, donc, amis auditeurs, si vous avez des livres que vous voulez faire découvrir, découvrir et offrir un beau cadeau et recevoir aussi du coup un livre aussi, c'est l'occasion. Mais n'hésitez surtout pas à y participer. Moi je trouve que c'est une très très bonne initiative. Mm-hmm. Après de toute manière, je connais des vies, je sais que c'est pas le dernier pour avoir des idées. donc ça va, c'est plutôt...
Je vois pas de quoi tu parles.
Non mais c'est... Voilà, t'as plein d'idées et c'est une très très bonne chose de pouvoir faire bouger un petit peu tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a l'équipe du Petit Bazar? Je pense que l'équipe du Petit Bazar va pas tarder à arriver tranquillement. Donc, on va, ça va être l'occasion pour nous juste de refaire un petit tour de table, de savoir où est-ce qu'on peut retrouver les actualités de tout un chacun tranquillement pour finir cette émission. On va commencer par toi, Jo.
Oh, incroyable, très bien.
Alors Jo, dis-moi, où est-ce qu'on peut te retrouver, suivre ton actualité ou ce que tu fais ou ce qui t'intéresse, je ne sais pas.
Alors figurez-vous que j'ai un blog BD qui est sur l'URL www.jolindien.com.
Ouais.
Il n'y a pas de E à Jo. Vous pouvez avoir l'actualité, l'actualisation en fait de mon site sur ma page Facebook qui est Jolindien dans la ville. Voilà, Jolindien dans la ville. Mmh. Vous tapez ça sur Facebook. Et puis voilà l'essentiel de mon
en ce moment. Tu traites de quoi dans ta vidéo? Parce que je sais que t'aimes bien des fois aborder des petits sujets comme ça.
Oui, alors là je suis toujours sur la partie des pop clichés. C'est en gros c'est les clichés que l'on retrouve dans la plupart des récits. Alors tout ce qui est récits, films, romans, bandes dessinées, enfin voilà, je parle du Deus Ex Machina, enfin voilà, je reprends juste en trois cases à chaque fois les clichés, comme ça lorsque vous regarderez un film ou que vous lirez un livre, vous ferez ah mais c'est cool. Un cliché ça, et puis vous arrêterez de le lire.
Voilà, oh, mais ce film est nul, voilà, c'est comment tout démonter. Très bien, Sylvie, donc toi alors, ton actualité?
J'ai une page Facebook, sinon il y a mon éditeur, c'est ActuSF, donc il a un très gros site sur l'actualité de la SF. Mmh. Et puis, sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire autre chose. J'ai oublié quoi.
Bon.
Ça fait rien, je vais laisser parler David.
Bon. Oui, puis oui, ça revient, il n'y a pas de soucis.
Il a déjà beaucoup parlé, David.
Pour ton actualité, que ce soit le dépôt imaginaire ou même du livre, quand même, fidèle à ton pas balancé.
Alors, fidèle à ton pas balancé, encore une fois, un magnifique recueil de Sylvie Lainé, 26 nouvelles, pour la plupart primées. C'est de l'ASF, encore une fois comme prétexte à traiter nous ce que nous sommes êtres humains. C'est un vrai beau cadeau de Noël à faire aux gens qu'on aime et il faut vraiment pas hésiter. C'est un très très beau livre.
Et sinon le dépôt imaginaire, alors le dépôt imaginaire, où est-ce qu'on peut suivre l'actualité du dépôt imaginaire?
Alors, le dépôt imaginaire, on peut suivre l'actualité sur Twitter et sur Facebook, évidemment à Dépôt Imaginaire, c'est assez facile à trouver. Et puis comme vous pourrez le voir, nous avons plein de projets pour l'année 2017 qui sont en préparation. Voilà, mais ça je reviendrai vous en parler.
Mais oui, d'ailleurs tu reviens le mois prochain, non? C'est
et
ça,
oui, je reviens le mois prochain puisque Nas m'a gentiment proposé et Game Age et l'air de jeu m'ont gentiment proposé effectivement la chronique littéraire du mois. Donc je reviendrai avec grand plaisir pour vous parler de livres.
Voilà. Toi Marjo, est-ce que on peut suivre ton actu ou quelque chose comme ça?
On va dire que l'actu de Game Age sera sur la page Facebook,
ouais,
dont
ça.
Les nombreux podcasts que tu vas y mettre. Voilà. Et je pense que Sylvie a retrouvé ce que je voulais dire.
Vas-y. Je voulais dire que je vais revenir sur Radio Canu dans deux jours pour participer à l'émission Échec et Glutamate.
Voilà. Donc,
où on va parler de films.
Voilà, c'est ça. Donc,
je ne sais pas lequel.
Tu nous as dit c'était lundi, c'est ça?
C'est lundi.
Voilà, lundi à 17h. Donc voilà, soyez présents. Quant à nous, alors, on va pas se retrouver la semaine prochaine puisque c'est les fêtes. Quoique, si je me motive peut-être, je viendrai vous faire une spéciale musicale. Non, a priori non. Et après c'est le nouvel an, donc on se retrouvera sûrement l'année prochaine les amis. Sachez aussi que quand même vous pouvez suivre aussi mon actu à moi, donc bien sûr sur la page Game Age, mais aussi sur Basket Tout Terrain, voilà mon petit projet basketistique, voilà parce que j'aime bien le basket. Je vous souhaite d'excellentes fêtes. N'hésitez pas à aller donc rencontrer Sylvie Lainé tout à l'heure. Et puis amusez-vous bien et lisez beaucoup. Allez.
Bonne fête à tous.
Bonne fête.
Et bonne vacances.
Et place au Petit Bazar. Ciao ciao.